France Culture.
Bonsoir Yam Abbas, réalisatrice, scénariste, photographe palestinienne, mais surtout plein d'autres choses encore. Merci de nous accueillir pour ce deuxième opus de la semaine à voix nue dans votre salon. Alors hier, nous terminions notre premier entretien de la semaine avec l'évocation de votre père. Votre père, vice-directeur d'école, qui a joué un rôle central dans l'éducation de la famille, enfin des enfants de la famille, insistant beaucoup sur la réussite scolaire, l'accès à la culture, les livres, c'était important dans la famille Abbas.
Oui, absolument. Le livre, l'éducation, être bon à l'école, le savoir scolaire avant tout, et en plus, tant de lectures imposées par jour, parce que il fallait s'instruire aussi de la littérature autrement. Et je crois, moi, ça me convenait, en fait. Ça me convenait, j'aimais bien ça. C'était vraiment une manière pour moi de s'échapper et d'avoir un espace personnel qui me permettait d'exister en liberté totale.
Alors, il y avait quoi dans la bibliothèque? Parce que on dit que votre père a offert à la famille une bibliothèque. On lisait quoi? Vous lisiez quoi?
Effectivement, un matin, mon père est parti. Je demandais à ma mère où il était. Elle me dit, il est parti à Nazareth. Donc, il revient. Et quand il revient vers 13 heures, en fait, il revient avec une voiture remplie de livres. Il nous appelle de venir l'aider à décharger. Donc, on commence à monter tous les livres à la maison. Et là, on se trouve vraiment avec une bibliothèque complète. Je crois qu'il a ramené 400-500 livres d'un coup. Et il y avait de tout. Il y avait déjà des livres de recherche, des livres, des essais. Il y avait des... Tout était en arabe, parce que c'est la langue avec laquelle on était éduqué et on lisait. Il y avait des traductions des romans français, Victor Hugo. Je me souviens des livres que Les Misérables, que j'avais lus aussi à l'époque, le Bossu de Notre-Dame, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait en arabe, Ahdab Notre-Dame. Donc... Et beaucoup d'autres, des pièces de théâtre, des livres de poésie. Et moi, il y avait un livre à l'époque que j'avais trouvé et qui était le livre de Gibran Khalil Gibran, le prophète, et qui est devenu presque comme ma Bible. En fait, c'est le livre dans lequel je me projetais si j'étais pas bien, si j'étais heureuse, si j'étais rêveuse, si j'étais en train de chercher des réponses peut-être à certaines choses. Je me plongeais dans ce livre qui est devenu vraiment un livre qui dormait avec moi. C'est un livre qui m'a beaucoup influencée.
Gibran, Khalil Gibran, le grand poète libanais.
Libanais, exactement, qui était exilé aussi du Liban à l'époque. Et son livre était pour moi vraiment l'ouverture vers un espace... mental d'une liberté, d'une spiritualité énorme. Énorme. Pour moi, certaines personnes peuvent dire aujourd'hui que c'est un livre qui tend à être christique, religieux, mais pour moi, c'était... le message allait au-delà de... Pour moi, en tout cas, en tant qu'enfant, c'est pas le côté nécessairement religieux de Gibran Khalil Gibran ou de son écriture qui m'a vraiment... plonger dans cet espace spirituel, c'était plutôt la recherche d'un espace libre, d'un endroit où un enfant avec un héritage pareil peut continuer à arriver.
Alors, vous avez quel âge à ce moment-là
et... J'étais ado. Je me souviens pas exactement vraiment de mon âge. J'étais ado en début d'adolescence, mais c'est vrai que le livre était pour moi, pas celui-là, le livre en général avec un grand L. En fait, l'ami, j'ai envie de dire, l'ami, le consolant, le tout, vraiment le tout.
Alors vous dites, c'est un livre qui m'a permis de m'échapper. On s'échappe de quoi? Du côté traditionnaliste de la société palestinienne, du narratif imposé par les livres d'histoire israéliens qu'on apprend même aux Palestiniens à l'école. On s'échappe de quoi?
À l'époque, c'est pas du tout une pensée que je pouvais avoir parce que j'avais pas vraiment la faculté analytique. De voir la politique, en fait, qui m'entourait, c'est juste, il y avait un sentiment chez nous d'une inégalité. On n'est pas pareil. Juste, on n'est pas pareil. On vit à l'intérieur, on vit avec les Israéliens, mais on n'est pas pareil.
Qu'est-ce qui n'était pas pareil?
Bah, c'est un sentiment. Je vous raconte vraiment le sentiment de l'enfant, en fait, que j'étais. On n'est pas pareil parce que, déjà, on est un peu mis à l'écart de certaines choses et que le système ne protège pas de la même manière et que, déjà, voir ma grand-mère, mes deux grand-mères vivantes chez nous à la maison, avec leur histoire, avec leur passé, qui vient quand même de ces gens avec qui on vit. Je vous raconte vraiment ma pensée d'enfant. La première guerre que j'ai vécue avec mes parents était la guerre de six jours, de 67. Je me souviens, j'avais 6 ans et quelques, et je courais derrière ma mère, parce qu'il y avait vraiment des avions qui passaient au-dessus de ma tête, mais d'une manière un peu effrayante. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre qui se bat contre qui. En sachant que des membres de la famille de mes deux grand-mères, donc de mes côtés paternels, maternels, se trouvaient au Liban et qui pouvaient être tués par les avions israéliens qui partaient d'Israël. Or, aussi, il y avait des bombes qui arrivaient de Liban, qui pouvaient tuer n'importe quel membre de ma famille qui se trouvait à l'intérieur. Donc, on se sent un peu écrasé par une identité qui est très difficile à définir. Et donc, à partir de là, en tant qu'enfant, on fait quoi avec ça? Et quand on sort dans la rue, on est l'arabe. D'un seul coup, on est israélien, entre guillemets, mais on est l'arabe. On est le musulman, on n'est pas pareil.
Oui, parce qu'à l'issue de la guerre des six jours, vous devenez israélienne.
En fait, exactement, parce que c'est à partir de là peut-être que la loi martiale a disparu et que tous les Palestiniens qui ont resté dans la frontière d'Israël ont commencé à avoir des cartes d'identité et des passeports israéliens. Donc ils sont considérés comme citoyens. Mais un citoyen, bah, équivalent à l'autre. Ça, je l'ai vu. Pendant mon enfance, en grandissant, je l'ai vu. Il y a eu un incident aussi quand j'étais jeune, en 76, le jour de la terre. Donc il y a eu une décision du gouvernement israélien de confisquer beaucoup de terres en Galilée, des terres qui appartenaient à tous les trois villages qui entouraient mon village inclus. Et donc à partir de là, il y a eu une manifestation qui devait être normalement une manifestation pacifiste pour dire non de la part des citoyens de ces trois villages et d'autres lieux d'ailleurs palestiniens d'Israël. En fait, il y a eu des morts parce que l'armée et la police israélienne ont intervenu. Il y avait vraiment des morts, des jeunes qui avaient mon âge, qui juste parce qu'ils se trouvaient devant les soldats à ce moment-là. Je me souviens, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient arrêtés, et je me souviens en fait de à la place centrale de mon village où ils ont mis des barbelés, ils ont jeté tous les hommes à l'intérieur, mon père inclus. Genre toutes ces images à l'intérieur de la jeune fille que j'étais m'ont pas nourri nécessairement de choses positives, on va dire. C'est quelque chose qui m'a quand même interrogé beaucoup sur mon identité. Sur pourquoi ça arrive à nous, avec une population avec laquelle on doit normalement vivre, et pourquoi d'un seul coup l'arme est tournée vers nous, juste parce qu'on manifeste un mécontentement de quelque chose, comme dans tout pays démocratique, normalement on a le droit de manifester. Pourquoi là ça devient carrément un acte de haine et un acte où aussi on perd des gens? Donc, questionnement après questionnement fait que, à certains moments, c'est pas nécessairement que le côté politique non plus qui a été en jeu par rapport à mon enfance. Il y a eu cette restriction de la femme à sa place et l'homme à une autre place. Et que cette injustice aussi de la différence, en fait, m'ennuyait énormément. Ça a vraiment nourri mon être d'une force de se rebeller par rapport à tout ça, quoi. Donc, le politique avec le social, quand ils se mélangent, je veux dire, est-ce que c'est la révolution? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mené à ma façon pour dire non à tout ça.
Et c'est ainsi que vous allez finir par défier votre père. Mais je reviens juste un petit peu en arrière. Vous dites, première guerre que je vis avec mes parents, on est en 1967. Et puis, 6 ans plus tard, vous avez à peine 13 ans, deuxième guerre, la guerre du Kippour.
Ouais.
Ça aussi, c'est un traumatisme.
Absolument. Chez mes parents, il y a eu une notion un peu aussi politique à cause de qui ils sont avec leur histoire, de tout le temps être attaché à ce qui se passe. Et mais je me souviens que la guerre de Kippour, c'était le temps de la récolte des olives pour les Palestiniens. Et je me souviens avoir été avec ma famille et mon père qui avait un transistor. Et qui essayait tout le temps, en travaillant, de capter les nouvelles. Et, mais on s'interroge, en fait, en tant qu'enfant. Même à 12, 13 ans, franchement, c'est difficile quand même de faire sens de tout ça dans la tête d'un enfant. Mais on s'interroge beaucoup. On s'interroge de pourquoi et comment et pourquoi c'est si important pour mon père d'écouter les nouvelles. Pourquoi c'est si important pour ma mère de savoir quelles sont les nouvelles de sa famille de l'autre côté de la frontière? Et que toutes les attaches familiales chez les Palestiniens, ils sont très forts parce qu'ils font partie de l'identité palestinienne. Et donc, ça m'était, tout ça a été transmis d'une manière un peu, des fois, même forcée, quoi. Par la force des choses, je recevais. Et analytiquement parlant, je devais vraiment analyser dans ma tête et corps d'enfant les choses presque avec une solitude terrible. Parce que des réponses, il n'y en avait pas. Des réponses, il n'y en avait pas. On n'avait pas la facilité aujourd'hui de trouver des réponses, des fois même en cherchant sur Internet ou je ne sais pas quoi. Et du coup, pour moi, quand je dis les livres étaient un échappatoire, du coup, je me plongeais dans les mots. Je me plongeais dans les métaphores poétiques. Je me plongeais dans tout ce qui m'amenait ailleurs pour m'échapper à la difficulté de comprendre tout ça.
Alors, c'est vrai que la poésie est partie intégrante de la culture palestinienne. Beaucoup de poèmes. Après la Nakba, on le disait, il y a eu un foisonnement de poèmes où le mot Palestine revenait. Comment expliquer que la poésie, ça soit... un genre littéraire fondamental dans cette culture palestinienne, dans ces cultures palestiniennes.
Moi, je vais répondre aussi par exactement un acte pareil qui s'est trouvé chez moi. Ça veut dire qu'à un moment, quand je disais, après, chaque Palestinien parlera de lui et de son parcours d'une manière peut-être différente, mais pour moi, s'échapper aussi, c'était pas que la lecture, c'était aussi écrire. Et je me trouvais très très jeune... comme on l'a peut-être remarqué dans le film, avec des carnets que je me baladais partout avec pour écrire mes sensations. Donc, comme si la poésie permettait un espace mental métaphorique de quelque chose qu'on peut placer en face de soi et on peut se projeter à l'intérieur pour s'échapper à la réalité dure ou, encore une fois, au manque de réponses qu'on peut avoir sur des choses qui sont vraiment de l'ordre de la vie banale, la vie au quotidien, et que par l'écriture et par écrire la poésie, parce que la poésie, c'est aussi un rythme, donc c'est un chancelement de l'esprit et de corps, et quelque part, c'était aussi quelque chose qui peut être chanté. Donc, retrouver certains poèmes aussi des écrivains tels que Jobran, Khalil Jobran, chantés par une chanteuse qui m'est très chère, Fayrouz, et que je me dis, la poésie permettait un espace aussi créatif, autre. Et donc, est-ce que c'est pas ma vocation? Est-ce que c'est pas quelque chose que, sur lequel je dois vraiment me plonger davantage pour pouvoir continuer à construire un horizon? Quelque chose qui m'ouvre, au lieu de fermer. Ouvre les chemins, m'ont montré qu'il y a quelque chose au-delà.
Alors, quand vous parlez du film, vous faites référence au film documentaire de votre fille, Lina Swalem, qui s'intitule Bye Bye Tibériade, donc qui revisite les générations de femmes qui ont traversé votre famille. Est-ce que cette langue, est-ce que ces poèmes, est-ce que cette écriture, finalement, ne serait pas la métaphore de cette terre perdue, de cette Palestine qui disparaît en 1948 et que, finalement... Ben, on transporte, quel que soit l'endroit où on est, on transporte une langue, on transporte un territoire.
Je crois qu'on transporte tout ce qu'on a envie de transporter dans la poésie, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on crée des métaphores dans lesquelles on peut se projeter, donc on peut tracer une réalité autre, une réalité peut-être qui permet la création de laisser exister le perdu, et peut-être se projeter encore dans des choses qui sont plus positives de la proposition au quotidien. Et pour moi, c'était, j'avais l'impression que vraiment c'était ça, surtout, comme je disais, ces espaces littéraires, ces phrasés, que ça soit à la lecture ou à l'écriture, étaient un moyen de transporter, effectivement, transporter quelque chose, mais c'est surtout aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, transporter la langue. La langue, pour moi, était une structure, en fait, une structure de l'identité. Et ça, c'était pour moi quelque chose de très, très important. Jusqu'à aujourd'hui, malgré 37 ans de vie en France, la langue arabe est une langue qui fait partie de mon identité entière et qui est très importante pour moi. Et même dans mon travail, souvent, j'essaye de marier cette langue avec les langues que je maîtrise autrement, parce que je trouve que le mariage des langues est une richesse énorme, et que je trouve vraiment que voir juste la manière dont la syntaxe des phrases entre l'arabe et le français, l'arabe et l'anglais peut cohabiter, c'est quelque chose qui, pour moi, peut créer peut-être une langue autre encore pour une existence autre des gens qui sont quand même différents, avec des histoires différentes, avec des mémoires différentes.
Alors, on l'a dit, hein, cette poésie, ces mots vous transportent, ça adoucit votre enfance au point que vous avez 7 ans et vous décidez de faire du théâtre, vous suivez des cours de théâtre, c'est important ce passage
un
sur les planches.
Un peu plus vieille, je crois que j'avais 9-10 ans, c'est vrai que j'arrive vraiment pas à me souvenir, mais j'étais déjà en primaire. Oui, le théâtre se proposait à moi comme toute forme d'expression artistique, j'ai envie de dire, par des activités ultrascolaires, que ça soit la danse, que ça soit la chorale, que ça soit le jeu. Et j'aimais beaucoup ça. En fait, j'aimais beaucoup parce que, pareil, je pouvais donner un sens à la vie d'une manière un peu différente. Un sens qui n'est pas proposé dans la vie quotidienne dans un village, parce que il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas nécessairement de concert. Il y a une radio transistor à la maison, de temps en temps on écoute la musique avec. Et beaucoup plus tard dans ma vie, la télévision est arrivée et je pouvais peut-être commencer à voir quelque chose de l'ordre d'une série, une télé, un film à la télé. Mais le jeu m'a permis, depuis mon jeune âge, de trouver, je parle beaucoup d'espace de liberté, effectivement, parce que je crois que ça a été très très important pour moi, sortir de l'espace offert pour créer un espace dans lequel je peux exister comme je veux, et pas comme ils veulent, que ça soit la société, la tradition, ou que ça soit la politique, donc le pays. Et dans cet espace-là, j'ai pu exprimer des sentiments que je trouvais très effectifs. Ça veut dire que la première fois quand je me trouvais sur une scène de théâtre pour faire une pièce scolaire, en fait, à la fin de l'année, je joue une mère qui perd son enfant et je me trouve carrément rentrée dans l'émotion de cette mère. Or, j'étais pas mère. Mais je finis et ce que j'ai découvert, c'est cette magie de cette transmission émotionnelle que je pouvais, à partir de cet espace, offrir aux gens. Et là, je regarde tout le monde et je vois que tout le monde pleure avec moi. Et j'ai fait waouh. Vraiment, j'ai fait waouh. Dans ma tête d'enfant, j'étais avec les yeux ouverts comme ça, en me disant c'est tellement beau. Mais encore une fois, on le comprend pas sur le moment et on n'arrive pas à le transcrire dans quelque chose de connu. Donc ça reste palpable, et je crois qu'on le trimballe avec nous, on le porte, on porte ce sentiment petit à petit, en traçant les années et les mois qui passent, on comprend que c'est quand même, ça devient une motivation vraiment principale dans notre avancement. Et donc, on est à la recherche tout le temps des moments comme ça, des sensations comme ça. Et ça se transmet plus tard par ce désir de devenir actrice.
Alors, il y a un personnage important qui s'appelle François Gaspard, alias Abou Salem, un homme de théâtre français installé à Jérusalem-Est et qui va fonder donc une troupe de théâtre, El Hakawati.
Oui.
C'est qui cet homme ?
Alors, cet homme était un directeur de théâtre. Je l'ai rencontré par hasard, parce qu'à l'époque, je travaillais à l'université de Bir Zed, parce que j'avais fait une école de photo et donc j'étais photographe. Et on m'a engagée à l'université pour faire des photos. Et à la fois, j'ai donné des cours à des jeunes qui voulaient comprendre et utiliser la photo. Donc l'université m'a permis d'ouvrir en fait ce cours pour les jeunes. Et un jour, dans le bureau où je travaillais, il y a ce jeune metteur en scène qui arrive et qui se présente. Je ne connais rien vraiment de ce théâtre ni de ce troupe. Et du coup, il se présente à moi et il m'a dit « Ah, mais viens nous visiter, on va ouvrir un théâtre, El Hakawati, à Jérusalem-Est. Viens nous voir, viens si t'as envie, tu peux nous faire des photos aussi. » Et à l'époque, effectivement, vraiment, je pensais pas du tout à lui en tant que metteur en scène. En fait, j'y vais visiter le théâtre. Je commence à le connaître et je comprends son histoire. En fait, c'est un enfant français né de parents français qui ont vécu à Jérusalem avant 67. Et parce que son père était médecin à l'hôpital français de Jérusalem pour les yeux. Donc, et lui, en tant que jeune enfant français, on l'a mis à l'école frère de Jérusalem-Est, où on apprend en français et en arabe. Donc, il a grandi avec les deux langues. Et il a senti que son destin était de rester dans ce lieu et de vivre dans ce lieu et devenir ce qu'il avait envie de devenir dans ce lieu. Donc, il maîtrisait les deux langues, effectivement. Et c'est lui qui était vraiment à l'initiative de la création de ce groupe, de cette troupe qui s'appelle El Hakawati, et avec quelques Palestiniens, avec sa femme d'ailleurs qui était son ex-femme qui était une juive new-yorkaise de Brooklyn. Et ben j'ai rencontré tout le monde à ce moment-là. Et en parlant avec François, très vite, et en fait, on parlait de jeu, on parlait de l'actorat, et je lui ai dit que j'ai l'impression que c'est un rêve enfoui à l'intérieur de moi, je le fais depuis longtemps, mais dans le cadre scolaire, et là, il me dit, t'as envie d'essayer? Je fais pardon. Il me dit, on a une tournée dans 3 semaines, et on a une actrice qui ne peut pas partir en tournée. Est-ce que t'as envie? Et j'ai dit, bah, écoute, si tu me fais confiance, oui, pourquoi pas. J'essaye. Et en fait, au bout d'une semaine, je suis sur scène. J'ai fait les représentations qui devaient se faire à Jérusalem avant le départ et un premier voyage en France. En fait, on arrive à Lyon pour jouer. Et c'était mes premiers pas vraiment sur une scène professionnelle. Et à partir de là, au retour, j'ai décidé quand même de quitter la photo et de me consacrer au jeu. Et j'avais vraiment une porte qui s'est ouverte. Donc pour moi, François quand même était vraiment la personne qui m'a permis d'être actrice aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est plus des nôtres aujourd'hui. Je le regrette. Il a quand même laissé des traces très très importantes dans les théâtres palestiniens.
Alors c'est quoi le théâtre palestinien? Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que c'est un théâtre politique? Est-ce que c'est un théâtre engagé? Puisqu'ils fondent cette troupe dans les années fin des années 70, on est quand même dans cette époque où il y a ces aspirations à la révolution libératrice un peu partout dans le monde. C'est la fin de la colonisation, décolonisation, enfin pas partout. Hein. Mm. Puisque en Israël, Palestine, c'est pas le cas. C'est quoi? C'est un théâtre militant? C'est un théâtre engagé?
Moi, je dirais que c'est un théâtre engagé dans le sens où on avait l'impression que si on avait à s'exprimer artistiquement, c'était pour exprimer les difficultés et les interdictions dans lesquels on s'est trouvés. Et souvent, c'était, d'ailleurs, on a travaillé sur beaucoup d'écrivains qui étaient à la base des écrivains politiques, notamment Brecht, parce que c'est un nom très simple à caser dans le parcours politique, et que on prenait vraiment les pièces et on essayait de les adapter à la réalité palestinienne. Et si c'était pas le cas, c'était aussi beaucoup de théâtre qui s'est basé sur l'impro. Donc l'improvisation est partie d'une idée que François pouvait avoir et qu'il nous l'a transmise, et par la suite on devait commencer à répéter, et dans les répétitions il lançait des idées, il lançait des pistes sur lesquelles nous on improvisait et on faisait des créations de scènes comme ça sur place, soit ça restait, soit ça restait pas. Mais c'était l'idée vraiment de toujours partir de la réalité de la Palestine, que ça soit la réalité politique ou sociale, ou les deux d'ailleurs, pour exprimer les difficultés, pour exprimer des choses qui n'allaient qui n'allaient pas et qui devaient prendre une forme artistique pour pouvoir être transmises.
Ce que vous faisiez aussi avec vos photos?
Avec mes photos, c'était autre chose. Avec mes photos, j'aimais beaucoup faire des portraits, mais j'ai essayé de faire des portraits de femmes palestiniennes de Cisjordanie. J'avais l'impression, en tant que, parce que j'ai vécu à l'intérieur d'Israël, j'avais la possibilité de naviguer à l'intérieur et faire des photos avec les femmes que j'ai connues. Et là, j'ai décidé vraiment de faire une expo de photos qui était consacrée à ces femmes villageoises de toutes les villages autour de Birzeit et de Ramallah. Et j'ai beaucoup voyagé là-dedans et j'ai fait vraiment une exposition de portraits de femmes qui venaient de ces endroits-là. J'avais l'impression que ces femmes représentaient quelque chose de l'histoire et de la mémoire pour moi qui était très important à tracer en photo. Et après, je travaillais un peu en journalisme en photo, mais c'était pas ma tasse de thé, la vérité. Bon, c'était pas assez peut-être une forme artistique pour moi. Et après, c'était photographier des activités, pareil, au sein de l'université de Birzeit, pareil, qui était vraiment un job un peu pour me nourrir plutôt, jusqu'à vraiment trouver aussi la forme de la photo théâtrale qui était un double, pour moi, un double expression, la photo que j'aime et le jeu que j'aime. Donc, c'était, et à partir de là, je crois, est née l'envie peut-être de passer à la réalisation.
Alors un jour, dans les années 80, vous renversez la table, hein, vous décidez de quitter votre famille, de quitter cette Palestine, vous partez vers l'exil, vers l'Europe. Alors on a teasé cette idée depuis deux jours que vous aviez défié votre père, alors on va finir le teaser ce soir pour en parler demain, dans notre troisième entretien, Yam Abbas, à voix nue. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous encore une fois aujourd'hui. Merci et bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de France Culture.
Merci.
C'était À Voix Nue, Alain Lefkovitch avec Yam Abbas, chargé de programme Daphné Abgral, à la prise de son Thomas Robin, à la réalisation Guillaume Baldi, une série que vous pouvez bien évidemment réécouter sur le site et l'application Radio France.